Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous nous écoutez sur le graphite.net sur internet bien sûr et sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM tous les samedis entre 12h et 13h. Vous écoutez Biotine, l'émission ancestrale de Graphite qui traite de l'actualité scientifique. C'est une émission qui se renouvelle toutes les semaines parce que l'actualité scientifique se renouvelle bien évidemment. C'est de l'actualité, donc on est vraiment sur des choses qui n'arrêtent pas de bouger. Pas mal de thématiques qu'on va aborder aujourd'hui et puis on commencera peut-être sur des aspects au niveau du domaine médical qui peut être assez intéressant et prometteur. Aujourd'hui, 20 septembre, eh bien, le slip apparaît pour la première fois comme sous-vêtement dans la revue L'Illustration le 20 septembre 1913. Le slip date de 1913. Je croyais que c'était plus ancien. Qu'est-ce qu'ils mettaient avant ? Des espèces de grandes culottes, c'est ça là, je sais pas, c'est surprenant. Bon, enfin, c'est surprenant peut-être pas. Pour moi, ça l'était. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on apprend dans cet éphéméride du 20 septembre. Et en 1954, c'est le premier programme en Fortran, ou en Fortran, tiens, d'ailleurs, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, c'est ce langage de programmation généraliste dont les domaines de prédilection sont le calcul scientifique et le calcul numérique. Il est utilisé aussi bien sur ordinateur personnel que sur les superordinateurs. Et donc, ce premier programme en Fortran, j'ai un gros doute si on dit Fortran ou Fortran, je suis désolé. En tout cas, ça date de 1954, ça existe encore aujourd'hui. Naissance, le 20 septembre 1842, de James Dewar, chimiste et physicien britannique. Dewar, il est aujourd'hui essentiellement connu pour sa invention du vase, le vase Dewar, qu'il a utilisé dans ses recherches sur la liquéfaction des gaz. Un vase Dewar, c'est un récipient conçu pour fournir une très bonne isolation thermique. Par exemple, quand il est rempli d'un liquide chaud, eh bien le vase Dewar ne laissera la chaleur s'échapper que difficilement et le liquide restera chaud bien plus longtemps que dans un récipient classique. Ce vase se présente sous la forme d'une bouteille en verre ou en métal, en double couche, et l'espace étroit entre ces deux bouteilles est presque entièrement dépourvu d'air, donc une espèce de vide, un vide presque à quasi vide, qui empêche la conduction et la convection de chaleur. La surface intérieure de la bouteille externe et la surface externe de la bouteille intérieure, ils ont une espèce d'enduit réfléchissant métallique qui va empêcher la chaleur d'être transmise par rayonnement. Et Dewar, à l'époque, il utilisait de l'argent pour cela. Le métal Dewar est Le vase, pardon, Dewar est communément utilisé dans les laboratoires pour stocker de l'azote liquide. Et puis, bien sûr, ce qui a été démocratisé, ce sont les bouteilles isothermes qui servent à conserver au chaud ou au froid toutes sortes de liquides. Ils utilisent un petit peu le même principe que ce vase Dewar. Un vase étant fragile et cher de par sa conception, il y a d'autres concepts à base de métal isolant ou de plastique qui sont apparus par la suite sur le marché parce qu'effectivement, lui utilisait du métal argent pour cela, donc c'est vrai que ça commençait à être un peu cher. Mais en tout cas, voilà, c'est lui qui est à l'origine de des bouteilles isothermes. Il s'appelle James Dewar. Il est donc né un 20 septembre 1842. Décès le 20 septembre 1804 de Pierre-François-André Méchain, astronome français. Il est l'un de ceux qui découvrent le plus d'objets du ciel profond. Il effectue également une mesure de l'arc du méridien Dunkerque-Barcelone afin de déterminer précisément le mètre. Mais il refuse de communiquer ses mesures à cause d'une anomalie de 3 secondes qui l'obsède jusqu'à sa mort, au point de la cacher dans ses notes. Et c'est d'ailleurs pour refaire la mesure qu'il retourne en Espagne, parce qu'il n'était pas du tout satisfait de ses résultats. Il retourne en Espagne pour refaire les mesures et il meurt en Espagne de la fièvre jaune un 20 septembre 1804. Pierre-François-André Méchain, qui a donc voulu déterminer précisément le mètre. Et au final, son résultat était quasiment bon, en fait, vraiment presque correct et quand même avec les technologies de l'époque, c'est-à-dire qu'on n'avait pas grand-chose finalement pour la mesure du mètre. Mais voilà, c'est quand même assez intéressant d'évoquer sa mémoire aujourd'hui à l'occasion de cette éphéméride. Ah tiens, on va parler un petit peu de médecine et on va parler de la longévité exceptionnelle que peut révéler le sang de ceux qu'on appelle les super centenaires révèle ce sont des différences assez cruciales. Platon et Aristote s'interrogeaient déjà sur le vieillissement il y a plus de 2300 ans. Aujourd'hui, la science moderne tente de percer les secrets d'une longévité exceptionnelle. Il y a une étude suédoise qui a été publiée il y a quelques mois dans la série Geroscience qui apporte un nouvel éclairage sur ce sujet. En analysant le sang de personnes qui ont vécu jusqu'à 100 ans, les chercheurs ont identifié des marqueurs biologiques distinctifs qui pourraient expliquer leur longévité hors du commun. Autrefois rares, eh bien les centenaires sont désormais le groupe démographique dont la croissance est la plus rapide au monde. Leur nombre a doublé tous les 10 ans depuis les années 1970. Ce phénomène soulève de nombreuses questions sur les limites de la longévité humaine et les facteurs qui déterminent une vie longue et en bonne santé. Et donc l'étude des centenaires présente un intérêt particulier pour les scientifiques car elle pourrait nous aider à comprendre comment on pourrait prolonger l'espérance de vie, comment on pourrait améliorer la qualité de vie des personnes âgées et aussi comment on pourrait prévenir les maladies liées au vieillissement. En revanche, percer les secrets de cette longévité exceptionnelle n'est pas une tâche aisée. Elle implique de démêler un petit peu l'interaction complexe entre, d'un côté, la prédisposition génétique et des facteurs qui sont liés au mode de vie tout au long de l'existence d'une personne. Et donc cette étude suédoise, qui est la plus vaste en son genre à ce jour, a comparé les profils de personnes ayant vécu jusqu'à 100 ans avec ceux qui sont décédés plus tôt. Et les chercheurs ont analysé les données de santé de 44 000 Suédois âgés de 64 à 99 ans, qu'ils ont été suivis pendant 35 ans grâce aux registres nationaux. C'est ça qui est assez intéressant dans cette étude, c'est qu'on est quand même sur un panel assez important. Et parmi ces participants, il y a 1200 personnes qui ont atteint l'âge de 100 ans. Et fait remarquable, il y a 85% des centenaires qui étaient des femmes. 85% des centenaires étaient des femmes. Et donc l'étude a examiné 12 biomarqueurs sanguins, donc au niveau du sang, liés à l'inflammation, au métabolisme, aux fonctions du foie, du rein, ainsi qu'à la malnutrition et à l'anémie potentielle. Et les résultats de l'étude ont révélé des différences subtiles mais significatives dans le profil sanguin des centenaires par rapport aux autres personnes. Il y avait un niveau plus bas de certains biomarqueurs, c'est-à-dire que les personnes ayant atteint 100 ans présentaient généralement des taux inférieurs de glucose, de créatinine et d'acide urique dès l'âge de 60 ans. Il y avait aussi une absence de valeurs extrêmes, c'est-à-dire que les centenaires avaient rarement des valeurs très élevées ou très basses pour la plupart des biomarqueurs. Quand on fait une analyse de sang, on a un petit peu tous ces marqueurs et on voit très bien que dans certains cas, on est au niveau des limites, voire on les dépasse. Eux, eh bien, ils sont vraiment pile au milieu, on va dire, c'est-à-dire pas trop faible, pas trop fort. Par exemple, peu d'entre eux avaient un taux de glucose supérieur à 6,5 ou un taux de créatinine supérieur à 125 plus tôt dans leur vie. Il y avait un impact aussi sur la probabilité d'atteindre 100 ans, c'est-à-dire que 10 des 12 biomarqueurs qui étaient étudiés étaient liés à la probabilité de devenir centenaire, même après la prise en compte de l'âge, du sexe et des maladies qui touchent ces personnes. Ces découvertes, elles suggèrent en fait un lien potentiel entre la santé métabolique, la nutrition et une longévité exceptionnelle. Alors bien que l'étude ne permette pas de tirer des conclusions sur les facteurs génétiques ou les facteurs qui sont liés au mode de vie responsable de ces valeurs de biomarqueurs, eh bien cette étude ouvre de nouvelles pistes pour la recherche sur le vieillissement en bonne santé. Parce que les résultats de cette étude soulèvent des questions importantes sur la manière dont nous pouvons influencer notre longévité. Bien que les différences observées soient relativement modeste, elle suggère que certains facteurs peuvent être modifiés pour améliorer nos chances de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Alors, il y a quelques implications pratiques de ces découvertes. Un, ce serait déjà de surveiller régulièrement ces biomarqueurs sanguins, en particulier après 60 ans, c'est-à-dire de faire régulièrement des prises de sang. Porter une attention particulière au niveau de glucose, de créatinine et d'acide urique. D'adopter un mode de vie qui favorise une bonne santé métabolique. Et de maintenir une alimentation équilibrée pour prévenir la malnutrition. Alors, il est capital de noter que si ces facteurs biologiques jouent un rôle, eh bien, la chance intervient probablement aussi dans l'atteinte de cet âge un peu exceptionnel. Néanmoins, les différences qui sont observées dans les biomarqueurs longtemps avant le décès suggèrent quand même que les gènes et le mode de vie ont quand même une influence significative sur notre longévité. En fin de compte, cette étude, elle nous rappelle que la quête de la longévité, c'est un voyage complexe, influencé par une multitude de facteurs. Bien que nous ne puissions pas tous devenir centenaires, et bien comprendre les secrets du sang de ces personnes qui sont exceptionnellement âgées pourrait nous aider à vivre des vies plus longues et surtout aussi plus saines. Donc voilà, on en sait un petit peu plus sur cette longévité exceptionnelle des centenaires, ce qui fait, voilà, ce qui fait rêver, enfin ce qui fait rêver, oui, non, en tout cas ce qui permet d'en savoir un petit peu plus. Toujours dans le domaine médecine, on va parler cette fois de l'apnée du sommeil qui touche environ 1 600 000 Français. L'apnée du sommeil qui perturbe considérablement leur qualité de vie et qui présente des risques sérieux pour leur santé cardiovasculaire. Jusqu'à présent, le traitement principal consistait à utiliser un appareil qu'on appelle un appareil à pression positive continue, donc PPC, à utiliser cet appareil pendant la nuit. C'est une solution qui est efficace mais qui est quand même contraignante pour de nombreuses personnes qui abandonnent au fur et à mesure cet appareil et donc ce traitement. Mais il y a une nouvelle approche médicamenteuse qui pourrait bientôt changer la donne et qui offre un espoir aux personnes qui cherchent une alternative plus confortable. En fait, l'apnée du sommeil, elle se caractérise par des interruptions respiratoires la nuit causées par le relâchement excessif des muscles du larynx. Et ces pauses respiratoires entraînent des ronflements sonores et des micro-réveils qui vont fragmenter le sommeil pendant toute la nuit. Il y a une start-up qui s'appelle ApneaMed qui a développé un médicament innovant qui combine deux molécules déjà existantes sur le marché pharmaceutique. La première molécule agit en renforçant le tonus musculaire du pharynx, tandis que la seconde molécule prévient son relâchement excessif pendant le sommeil. Et cette double action cible directement le mécanisme physiologique qui sont responsables des apnées. Les essais cliniques ont été menés sur un peu plus de 600 patients et ça a montré quand même des résultats particulièrement encourageants parce qu'il y a eu plus de la moitié des patients traités qui ont constaté une réduction significative de leur symptômes, il y a 22% qui ont vu leur syndrome d'apnée complètement résolu et les effets secondaires restent limités. Ça reste assez limité, notamment une sécheresse buccale, c'est ce que l'on constate, et quelques insomnies dans environ 25% des cas quand même. Mais bon, ça reste encore limité, en tout cas ça pourrait peut-être être amélioré. L'apnée du sommeil va bien au-delà d'un simple problème de ronflement, hein, parce que cette pathologie entraîne une mauvaise oxygénation de l'organisme pendant la nuit, avec des conséquences potentiellement graves à long terme. Les interruptions respiratoires répétées, ça provoque ce qu'on appelle une hypoxie intermittente, c'est-à-dire une diminution temporaire du taux d'oxygène dans le sang. Et cette situation, elle sollicite davantage le système cardiovasculaire et donc ça favorise le développement de pathologies comme l'hypertension artérielle. Et donc sans traitement adéquat, eh bien les complications long terme peuvent inclure une augmentation du risque d'accidents vasculaires cérébraux, un risque accru de maladies coronariennes, une diminution de l'espérance de vie et des troubles cognitifs et de l'humeur qui sont liés justement à ce sommeil qui n'est quand même pas nécessairement réparateur. Et donc, selon le docteur Maxime Patou, qui est pneumologue expert à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, ce type de traitement sera peut-être intéressant pour les patients qui ne supportent pas cet appareil-là, cet appareil PPC qui est très symptomatique et qui n'ont pas de forme sévère. Et cette observation souligne donc que ce nouveau médicament pourrait initialement représenter une option complémentaire plutôt qu'un remplacement complet des traitements qui sont existants. Alors, après les résultats plutôt positifs du premier essai clinique qui ont été annoncés par voie de communiqué de presse, il y a un second essai clinique qui... C'est réalisé cet été. Alors, on attend un petit peu les résultats, bien évidemment. Hein. Ces nouvelles données permettront à cette start-up AppliMed de soumettre une demande d'approbation auprès de l'administration américaine au début de l'année prochaine. Et si les résultats confirment l'efficacité et la sécurité du médicament, eh bien, cette innovation pourrait transformer l'approche thérapeutique de l'apnée du sommeil. Pour les nombreux patients qui abandonnent leur traitement avec cet appareil un peu compliqué que l'on met dans ce masque que l'on met toute la nuit, eh bien, l'arrivée d'une alternative sous forme de comprimé, bien sûr, ça représente une avancée considérable. Néanmoins, les spécialistes restent prudents et rappellent que chaque option thérapeutique devra être évaluée en fonction du profil spécifique du patient et de la sévérité de son apnée. L'avenir nous dira si ce médicament révolutionnaire tiendra toutes ses promesses, offrant enfin une solution simple et efficace à ce trouble du sommeil qui affecte la qualité de vie de millions de personnes à travers le monde. Et donc là, on considère qu'il y a quand même 1 600 000 Français qui sont concernés par l'apnée du sommeil. Donc voilà, fini peut-être la fin, c'est peut-être bientôt la fin du masque respiratoire un peu encombrant avec ce médicament qui pourrait devenir une alternative thérapeutique attendue, espérée, et efficace, bien sûr. Donc voilà, c'était deux nouvelles plutôt réconfortantes d'un point de vue médical. On continuera à poursuivre un petit peu et à feuilleter la revue de presse de l'actualité médicale. On se demandera notamment pourquoi nos boîtes de somnifères vont bientôt contenir moins de comprimés. C'est le prochain article qu'on va évoquer juste après ce titre sur l'antenne de Graphite. Vous êtes bien sur Graphite. Quelle chance!
Nous étions joints.
Nous étions Dieu, Nicolas Comment sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Biotine sur Graphite.
Et on va continuer à parler un peu de médecine dans cette émission Biotine aujourd'hui avec cet article qui nous demande pourquoi les boîtes de somnifères vont bientôt contenir moins de comprimés. L'insomnie touche près d'un tiers des Français, mais les traitements médicamenteux qui la soulagent présentent des risques significatifs de dépenses. Le 30 juin dernier, l'ANSM a annoncé une nouvelle stratégie pour contrer ce problème de santé publique. Réduire le nombre de comprimés dans les boîtes de benzodiazépines. L'ANSM, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament. Cette décision, en fait, elle vise à limiter l'usage prolongé de ces médicaments dont l'efficacité s'accompagne d'effets secondaires préoccupants lorsqu'ils sont pris sur de longues périodes. L'Agence nationale de sécurité du médicament a constaté un usage inadapté, persistant des médicaments contre l'insomnie. Et face à cette situation, elle impose désormais aux fabricants de réduire considérablement le nombre de comprimés par boîte pour trois substances spécifiques, la zoplicone, le zolpidem et le nitrazépam. Ces nouveaux conditionnements ne contiendront que 5 à 7 comprimés, soit l'équivalent d'un traitement hebdomadaire. Et en fait, cette mesure, elle cible directement le principal problème identifié par l'agence sanitaire, c'est-à-dire l'utilisation prolongée au-delà des recommandations médicales. Diminuer le nombre de comprimés dans les boîtes, c'est réduire le risque d'utilisation prolongée et donc celui de dépendance. C'est ce qu'explique clairement l'ANSM dans son communiqué. Cette approche pragmatique vise à créer une barrière physique entre le fait de mal utiliser ces médicaments en limitant d'emblée la quantité disponible, bien sûr, pour le patient. Alors, les benzodiazépines représentent une classe de médicaments efficaces contre les symptômes de l'insomnie, mais leur action ne traite pas les causes profondes des troubles du sommeil. Et donc, leur utilisation s'accompagne de plusieurs risques pour la santé, notamment quand la durée d'utilisation s'allonge. Un développement d'une dépendance physique et psychologique, des troubles de la mémoire et de la concentration, un risque accru de chute, hein, particulièrement chez les personnes âgées, une altération des capacités de conduite, et un phénomène de tolérance qui nécessite des doses croissantes. Donc, les spécialistes recommandent depuis longtemps une utilisation limitée à quelques jours, voire 3 semaines maximum, et au-delà, les bénéfices sur le sommeil diminuent, tandis que les risques pour la santé augmentent significativement. La dépendance aux benzodiazépines peut s'installer insidieusement, parfois dès les premières semaines d'utilisation, et donc l'arrêt brutal après un usage prolongé provoque souvent un syndrome de sevrage avec un rebond d'insomnie, une anxiété et d'autres symptômes désagréables. Et donc cette initiative de l'ANSM s'accompagne d'un appel aux prescripteurs et aux pharmaciens, aux acteurs essentiels donc dans la chaîne de distribution de ces médicaments. Les médecins sont ainsi rappelés à leur responsabilité de limiter la durée des prescriptions de benzodiazépines. De leur côté, les pharmaciens sont invités à privilégier systématiquement ces nouveaux conditionnements réduits lorsque la durée prévue du traitement le permet. Et cette coordination entre autorités sanitaires et professionnels de santé vise à créer un environnement cohérent autour du patient. La réussite de cette mesure, elle dépendra largement de l'adhésion de l'ensemble des acteurs impliqués dans la prise en charge de l'insomnie. Et au-delà de la simple réduction des conditionnements, c'est toute une chaîne de soins qui doit s'adapter pour proposer des alternatives non médicamenteuses et accompagner les patients vers un sommeil naturel de qualité. Donc cette décision de l'ANSM, elle s'inscrit dans une tendance plus large qui vise un peu à encourager les approches non médicamenteuses contre l'insomnie. Les thérapies cognito-comportementales prouvent une efficacité durable sans effet secondaire néfaste. L'hygiène du sommeil, hein, aussi avec ses règles simples mais efficaces, constitue également une voie prometteuse, hein, c'est-à-dire des horaires réguliers, un environnement adapté, la limitation des excitants et des écrans également. Et ces méthodes naturelles offrent des solutions pérennes là où les médicaments ne proposent qu'un soulagement temporaire. En limitant physiquement l'accès aux benzodiazépines, eh bien, l'ANSM espère favoriser indirectement le recours à ces alternatives plus saines. Le défi reste de taille, hein, dans un pays où la consommation de somnifères demeure parmi les plus élevées d'Europe. Voilà pourquoi prochainement, les boîtes de somnifères vont bientôt contenir moins de comprimés. Autre sujet, mais toujours dans la même thématique, on dit souvent que manger des produits laitiers le soir provoque des cauchemars. Cette croyance populaire vient peut-être de trouver une explication scientifique. Il y a des chercheurs qui se sont penchés sur la question et qui ont découvert que le coupable ne serait pas le fromage lui-même, mais la manière dont notre corps le digère. Le contenu de l'assiette interfère-t-il avec la qualité de nos nuits ? Eh bien, pour y voir plus clair, il y a des scientifiques de l'Université de Montréal qui ont mené une étude qui a été publiée dans la revue Frontiers in Psychology, lors de laquelle ils ont interrogé plus de 1000 étudiants sur leurs habitudes alimentaires, la qualité de leur sommeil et les liens qu'ils percevaient entre les deux. Et les auteurs ont ainsi noté que la sévérité des cauchemars était intimement liée au fait que le dormeur souffrait d'une allergie alimentaire en général et d'une intolérance au lactose en particulier. Et ils avancent une explication assez logique. Une personne intolérante au lactose consomme des produits laitiers. Son corps peine à digérer, ce qui provoque un inconfort digestif, des ballonnements, des gaz, des douleurs à l'estomac. Cet inconfort, même léger, perturbe le sommeil. Et donc le cerveau, en plein travail pendant la nuit, intègre ces sensations corporelles négatives dans les rêves, qui peuvent alors devenir plus angoissants ou bizarres, d'où des cauchemars. Alors cela a du sens car nous savons que nos sensations corporelles peuvent affecter nos rêves, c'est ce qu'avancent les auteurs de cette étude. Cette découverte, elle ouvre donc des perspectives intéressantes en adaptant leur régime alimentaire. Les personnes sensibles à certains aliments pourraient améliorer significativement la qualité de leur sommeil. Voilà, ben ça je trouve que c'est quand même assez intéressant. Voilà, on a quand même abordé le sommeil selon trois aspects distincts. L'apnée du sommeil, le fait que ce que l'on mange avant, enfin, on mange le soir, aurait un impact sur nos cauchemars et donc ces boîtes de somnifères qui auront moins de comprimés désormais. Autre thématique, quitter le sommeil pour parler du diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune qui détruit les cellules productrices d'insuline. Eh bien, le diabète impose un lourd fardeau à ceux qui en souffrent. Le diabète de type 1, avec des injections quotidiennes d'insuline qui rythment leur vie. Mais il y a une innovation médicale prometteuse qui émerge aujourd'hui. Ça serait l'utilisation de cellules souches embryonnaires pour restaurer la production naturelle d'insuline. Les résultats d'un essai clinique dont les travaux ont été publiés dans la revue le New England Journal of Medicine montrent que cette approche pourrait enfin libérer les patients de leur dépendance aux injections. En fait, la recherche sur les cellules souches embryonnaires ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques pour le diabète de type 1. Cette maladie auto-immune qui touche environ 10% des diabétiques se caractérise par la destruction de certaines cellules du pancréas. Ces cellules sont essentielles parce qu'elles produisent normalement l'insuline qui est nécessaire à la régulation du taux de glucose dans le sang. Et le traitement expérimental représente une innovation majeure. Ce médicament utilise des cellules souches embryonnaires qui sont transformées en cellules de pancréas fonctionnelles, quand même assez fascinant. Et on administre cela par voie intraveineuse et ça permet de restaurer la capacité du corps à produire sa propre insuline. Donc il y a un essai clinique qui a été mené par une entreprise qui s'appelle Vertex Pharmaceuticals qui a démontré des résultats remarquables. Il y a eu 12 patients, dont un Français, qui ont participé à cette étude pionnière. Ils ont été suivis pendant une année complète et le résultat est assez impressionnant. Il y a 83% des participants qui n'ont plus eu besoin d'injection d'insuline un an après le traitement. Alors ok, là on est quand même sur une première phase, une toute première phase d'étude parce qu'il n'y a que 12 personnes, mais en tout cas les résultats sont quand même assez bluffants et assez intéressants. La méthode développée par les chercheurs utilise donc des cellules souches allogéniques qui sont prélevées sur des embryons surnuméraires issus de fécondation in vitro. Et donc ces cellules précieuses, elles suivent ensuite un parcours minutieusement orchestré par une technique assez particulière qui représente une avancée considérable par rapport aux méthodes précédentes parce que jusqu'à présent, les greffes qu'on pouvait faire au niveau du pancréas nécessitaient des prélèvements sur des donneurs décédés. C'était un processus qui était, d'un point de vue logistique, assez complexe et c'était limité aussi par la disponibilité des organes, bien évidemment. Eh bien, l'approche nouvelle qui est mise en place simplifie radicalement cette procédure parce qu'elle offre une source potentiellement illimitée de ces cellules de pancréas fonctionnelles sans dépendre du prélèvement post post-mortem, et cette innovation pourrait rendre le traitement accessible à un nombre bien plus important de patients. Alors, malgré ces résultats enthousiasmants, il y a certains obstacles qui demeurent. Le principal défi concerne le traitement immunosuppresseur que les patients doivent suivre à vie après la greffe, et ces médicaments indispensables pour éviter le rejet des cellules implantées comportent des effets secondaires significatifs qui augmentent aussi le risque d'infection. Donc il y a quand même des effets secondaires suite à cela qui peut être assez particulier. Et il y a donc les chercheurs qui travaillent actuellement sur plusieurs pistes pour essayer de surmonter ces problématiques avec le développement de certaines techniques et des recherches de méthodes qui pourraient permettre d'avoir une réponse immunitaire moins agressive, quelque part, c'est un peu l'idée. Alors les travaux qui sont récemment présentés au congrès de l'Association américaine du diabète à Chicago, eh bien les travaux progressent désormais vers un essai clinique de phase 3, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans l'expérimentation. C'est une étape cruciale qui va impliquer un nombre plus important de patients aux États-Unis et en Europe pour confirmer l'efficacité et la sécurité du traitement à plus grande échelle, bien évidemment. Donc il y a des approches alternatives qui sont également cherchées. Il y a une patiente chinoise qui a ainsi pu produire sa propre insuline grâce à un traitement utilisant d'autres types de cellules souches. Et ces différentes voies de recherche convergent vers un objectif commun, c'est-à-dire libérer définitivement les diabétiques de type 1 des contraintes des injections quotidiennes multiples d'insuline. Ces avancées scientifiques portent l'espoir d'une nouvelle ère dans la prise en charge de ce diabète de type 1 qui transforme une maladie chronique contraignante en condition un peu plus gérable par une intervention unique. Donc c'est vrai que ça pourrait être véritablement intéressant et assez prometteur. Mais bon, là, bien évidemment, vous l'avez compris, on est au début d'un process de recherche qui fait que c'est pas encore pour demain qu'on aurait cela, mais en tout cas, les premiers résultats sont vraiment intéressants et vraiment prometteurs. Voilà, on écoute un petit titre et puis on va continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité médicale aujourd'hui, parce que vous l'avez compris, les articles que j'ai sélectionnés tournent autour un petit peu de la santé, de la médecine. On continue avec Fab Ebb sur l'antenne de Graphite et puis on se retrouve juste après, bien évidemment.
On a une perturbation qui va arriver. Alors elle le fait dans un champ de pression élevé, ça veut dire qu'elle ne sera pas très active côté précipitation, mais tout de même, elle va passer. Donc on va la retrouver déjà demain matin. Alors essentiellement...
Quand je rentre vers 20h après une dure journée de labeur, j'aimerais bien me caler devant la télé. Et je sais que pour des millions de Français, pour évacuer le stress, c'est devenu un réflexe. Diffusion quotidienne aux images déroutantes sur lesquelles s'égrène une voix off alarmante, production hollywoodienne d'une info désolante. Le grand messie manipule les esprits et tente d'implanter sa triste vision de la réalité. Information falsifiée, choisie pour faire du profit une demi-heure. Après, c'est terminé. Bonne soirée, bonne soirée. Ils appellent ça le gîte. Ça m'a saoulé et j'ai zappé. Début de migraine, j'ai changé de chaîne. Ça m'a saoulé et j'ai zappé. Début de migraine, j'ai changé de chaîne.
L'ancien patron des RG laisse entendre qu'il aurait cherché à déstabiliser Lionel Jospin ou Nicolas Sarkozy.
Et je suis tombé sur un parloir télévisuel avec des grands gens qu'on qualifie d'intellectuels. Mais au lieu d'aborder une discussion avec un véritable sujet de fond, on mise encore sur du sensationnel et on se dispute des propos superficiels. Ces marionnettes pleines d'éducation m'ont mis la rate au courbouillon. Et quand, pour conclure le débat, ils ont fini en pugilat. Ça m'a saoulé et j'ai zappé. Putain de migraine, j'ai changé de chaîne. Ça m'a saoulé et j'ai zappé. Putain de migraine, j'ai changé de chaîne. Je me permets de rire, car je pensais pas que le pire restait à venir. Oh, bienvenue sur le plateau des jeux navrants, où des candidats, certainement très intelligents, viennent faire étal de leur culture. Mon Dieu, d'être aussi con, ça doit être dur. Et dans le milieu de la bouffonnerie, TV reality immonde qui incarne la bêtise du monde. C'est normal si tu t'es pas reconnu dans ce troupeau d'individus. Dans un monde gouverné par les médias qui se discutent ton petit déj entre un plan, c'est pas bien qu'il faut bouger entre les repas. Et... ça m'a saoulé, j'ai mal au crâne.
J'ai zappé, c'était Fab Ebb sur l'antenne de Graphite. Bien sûr, vous ne zappez pas, vous restez bien sur Graphite.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Allez, on continue cette thématique un peu médicale et santé dans cette émission Biotine aujourd'hui. Vous nous écoutez sur 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet. Il y a une étude publiée dans la revue Journal of Applied Physiology qui révèle que les personnes qui boivent moins de 1,5 litre de liquide par jour présentent une réponse du cortisol au stress supérieure de 50% par rapport à celle des personnes qui boivent suffisamment. Ça veut dire quoi? Ne pas boire assez d'eau, eh bien c'est une mauvaise habitude bien plus dangereuse pour la santé qu'on ne le pense. C'est ce qu'alertent les chercheurs. Cette mauvaise habitude sera associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, de diabète et de dépression selon les chercheurs. Les participants à cette étude, ce sont des jeunes adultes en bonne santé. Ils ont été divisés en deux groupes. Le premier groupe était composé de personnes qui ne buvaient pas assez d'eau au quotidien, donc moins de 1,5 litre de liquide par jour. Et le deuxième groupe était composé de personnes ayant un rapport qu'on appelle un apport hydrique élevé, c'est-à-dire qu'ils buvaient au moins plus de 2 litres d'eau pour les femmes et 2,5 litres pour les hommes. Les participants ont été interrogés sur des facteurs connus pour influencer les réactions au stress, à savoir les caractéristiques psychologiques et le sommeil. Et leur niveau d'hydratation a également été surveillé par des analyses de sang et d'urine. Ils ont été soumis à un stress social via un test très utilisé pour simuler le stress réel. C'est le test de stress social de Trier. Je ne connais pas. Ce test, il consiste en un faux entretien d'embauche et un exercice de calcul mental. Et donc, les deux groupes se sont sentis tout aussi anxieux et ont connu des augmentations similaires de leur fréquence cardiaque pendant le test d'effort. Cependant, seul le groupe qui n'avait pas assez bu a montré une augmentation significative du cortisol salivaire en réponse au test d'effort. C'est ce qu'a déclaré le docteur Daniel Cachy, qui est l'un des auteurs de cette étude. Par ailleurs, les urines des personnes qui ne buvaient pas assez étaient plus foncées et plus concentrées, ce qui sont les symptômes caractéristiques d'une mauvaise hydratation. Les chercheurs en ont conclu qu'une mauvaise hydratation était associée à une plus grande réactivité du cortisol au test d'effort. Or, une réactivité exagérée du cortisol au stress est associée à une mauvaise santé à long terme. Il faut savoir que le système de régulation de l'eau du corps est étroitement lié au centre de réponse au stress du cerveau. Quand le corps détecte une déshydratation liée à un apport en eau insuffisant ou à une perte en eau excessive, il va automatiquement déclencher la libération d'une hormone qu'on appelle vasopressine, et celle-ci, elle agit sur les reins en favorisant la réabsorption d'eau afin de maintenir l'équilibre électrolytique, c'est-à-dire le maintien optimal des concentrations d'électrolytes dans le sang et des fluides corporels. Mais ce mécanisme, qui est donc protecteur, a aussi des effets négatifs sur le corps, parce que la libération prolongée de vasopressine fait travailler davantage les reins. Aussi, elle agit sur l'hypothalamus, c'est le centre de réponse au stress dans le cerveau, en déclenchant la production de cortisol. Et même si des études à long terme doivent être menées pour confirmer ce lien de cause à effet, eh bien, les résultats de ces travaux renforcent les recommandations actuelles en matière de consommation d'eau. Être hydraté peut aider votre corps à mieux gérer le stress, c'est ce qu'a donc signalé le docteur Cachy. Pour savoir si vous êtes bien hydraté, il existe un moyen simple, c'est de regarder la couleur de vos urines, dit-il. Un jaune clair est généralement révélateur d'une bonne hydratation. Si vos urines sont jaune foncé, cela signifie que vous ne buvez pas assez d'eau. Si vous savez, par exemple, que vous avez un emploi du temps chargé, une échéance imminente ou un discours à prononcer, garder une bouteille d'eau à portée de main peut être une bonne habitude. potentiellement bénéfique pour votre santé à long terme, c'est ce qu'explique le chercheur. Donc voilà, on en sait un petit peu plus sur cet aspect-là. Il y a 60 millions de consommateurs qui alertent sur un yaourt qui est à éviter pour notre santé. Les rayons des produits laitiers regorgent d'options alléchantes, mais toutes ne se valent pas, alors que nous pensions bien faire en optant pour certains yaourts. Il s'avère que nos choix peuvent parfois être contre-productifs pour notre santé. Il y a un expert en nutrition qui a été interrogé par Futura qui lève le voile sur les dessous de ce produit laitier et qui nous guide vers des alternatives plus saines. Déjà, le yaourt aux fruits, c'est une fausse bonne idée. Ils sont colorés, ils sont appétissants d'ailleurs. Mais les yaourts aux fruits semblent être le choix idéal pour allier plaisir et santé. Pourtant, le nutritionniste Raphaël Grumman met en garde contre cette option trompeuse. La teneur en sucre excessive, les bienfaits des fruits qui sont dilués, l'équivalent de 3 à 4 morceaux de sucre par peau. Oui, effectivement, ces sucres qui sont loin d'être aussi sains qu'ils le paraissent peuvent en réalité saboter vos efforts pour maintenir une alimentation équilibrée. Dans un pot de yaourt aux fruits, il y a parfois l'équivalent de 3 à 4 carrés de sucre, c'est ce que affirme l'expert. Cette quantité de sucre ajouté peut rapidement faire grimper votre apport calorique quotidien sans que vous vous en rendiez compte. Et donc, pour profiter des bienfaits des fruits sans compromettre votre santé, eh bien Raphaël Grumman suggère une alternative simple, c'est-à-dire d'opter pour un yaourt nature et d'y ajouter nos propres fruits frais. Cette méthode permet de contrôler la quantité de sucre et de préserver les nutriments des fruits. Autre yaourt, le yaourt 0%. Parmi les options qui semblent vertueuses au premier abord, eh bien, le yaourt 0% figure en bonne place. Par contre, ce produit censé être allégé cache bien son jeu. Et voici ce que révèle donc l'expert interrogé par Futura Science. Le nutritionniste est catégorique. Il dit « Il vaut mieux prendre un yaourt nature classique ou entier et l'aromatiser soi-même. Cette approche permet non seulement de contrôler les ingrédients, mais aussi d'adapter le goût à vos préférences. Pour ceux qui trouvent le yaourt nature trop fade, Raphaël Grumman propose quelques astuces. Ajouter une cuillère de miel, saupoudrer de cannelle, incorporer une petite quantité de confiture ou d'ajouter là encore des fruits frais coupés, je vais y arriver. Mais donc les fruits, les yaourts à 0%, c'est quand même apparemment une catastrophe. Et donc les yaourts recommandés par le nutritionniste, après avoir identifié les pièges à éviter, il est tente de se pencher donc sur les options recommandées par notre expert. Donc il y a Raphaël Grumman qui met en avant plusieurs types de yaourts qui allient santé et plaisir gustatif. Les yaourts grecs, les perles de lait nature, dit-il, les yaourts fjord, fjord, je crois que ça doit être ça, et les yaourts la laitière gamme nature. Ces références, dit-il, offrent un bon équilibre nutritionnel et apportent la quantité journalière de calcium nécessaire. Il est central de noter que la clé réside dans la modération et la variété. Même les yaourts recommandés doivent être consommés dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Concernant les alternatives végétales, le nutritionniste apporte des nuances intéressantes. Il dit que les yaourts avec du lait de coco ou du lait d'amande sont sains et bons pour votre corps. Les yaourts au soja également, mais moins conseillés. Le lait de soja peut avoir une influence sur des hormones féminines, notamment les œstrogènes. Il faut donc le limiter. Et donc, pour quelques conseils pratiques pour les yaourts, vérifiez la teneur en glucides. Cette teneur ne doit pas dépasser 5 grammes pour 100 grammes de produit. Privilégiez les yaourts nature, lire attentivement les étiquettes et donc se méfier des allégations trompeuses et des ingrédients cachés, et puis varier les plaisirs également. Et en suivant ces recommandations, vous pourrez savourer vos yaourts en toute sérénité en alliant plaisir gustatif et bénéfices pour votre santé. Mais voilà, donc faites attention, c'est 60 millions de consommateurs qui alertent sur ces yaourts préférés des Français qui sont quand même plutôt à éviter pour notre santé. Ben écoutez, on y fera attention. On fera gaffe de tout ça, bien sûr. Allez, on continue, et puis on va bientôt se quitter. Déjà, on va encore écouter un autre titre sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
Ça doit dépendre de quoi l'on parle. Ça doit dépendre de qui est en face. Ça doit dépendre si c'est une princesse ou le pire des salopards qui nous agresse. À nos dépens, ça doit dépendre de tes principes, de l'importance que tu attaches à ce qui ballot dans ton slip. Si t'es déjà mort, ça peut dépendre des petits cabots qui se déplacent pour venir parler à ta place. Ça doit dépendre de quoi l'on parle. Ça doit dépendre de qui est en face. Ça doit dépendre si c'est une princesse ou le pire des salopards qui nous agresse. À nos dépenses, ça doit dépendre du contour de mes fesses, à moins que ta connerie ne s'arrête sur la couleur de mon faciès. Ça doit dépendre si tu t'informes, si tu déformes à la télé, si t'es le plus laid de la fournée. Ça doit dépendre de tant de choses auxquelles on ne voudrait pas pourtant que ça dépende. Évidemment, ça doit dépendre des circonstances, pour peu qu'au bout de l'entretien y ait du travail pour le lendemain. Ça doit dépendre de quoi l'on parle. Ça doit dépendre de qui est en face. Ça doit dépendre si c'est une princesse ou le pire des salopards qui nous agresse. Ça doit dépendre. Ça doit dépendre si c'est une princesse ou le pire des salopards qui nous agresse. À nos dépens, ça doit dépendre de quoi l'on parle. Ça doit dépendre de qui est en face. Ça doit dépendre si c'est une princesse ou le pire des salopards qui nous agresse. À nos dépens, ça doit dépendre de quoi t'as l'air. Si ton habit ne fait pas le moine, si ton gourou fait tes affaires. Ça doit dépendre si tu préfères croire que ce sera mieux au ciel plutôt que t'éclater sur la terre. Ça doit dépendre de quoi l'on parle. Ça doit dépendre de qui est en face. Ça doit dépendre si c'est une princesse ou le pire des salopards qui nous agresse. À nos dépens, ça doit dépendre de quoi l'on parle. Ça doit dépendre de qui est en face. Ça doit dépendre si c'est une princesse ou le pire des salopards qui nous agresse. À nos dépens, ça doit dépendre de quoi l'on parle. Ça doit dépendre de qui est en face. Ça doit dépendre si c'est une princesse ou le pire des salopards qui nous agresse. À nos dépens, ça doit dépendre.
Ça doit dépendre, Laurent Montagne sur l'antenne de Graphite.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Et ben je crois que je n'aurai pas assez de temps pour évoquer avec vous tous les articles qui tournaient autour de la médecine, de la santé pour cette émission. Je vois que le retourne. On vient tous quitter et qu'il me reste encore plein d'articles. Bon, c'est pas grave. Alors, on va commencer par des articles plutôt... comment dire, je suis en train de m'écouter avec mes feuilles. Ce qui veut dire que tout est préparé à l'avance, vous voyez, c'est de l'improvisation totale cette émission, c'est un scandale, c'est une imposture. Alors, non, j'étais en train de, du coup, comme je voyais, je me rendais compte que je n'aurais pas le temps de tout évoquer, je voulais essayer d'identifier quand même des articles plutôt positifs, on va dire, et optimistes, avec cette question, et si un simple ingrédient de nos assiettes pouvait aider le système immunitaire à mieux combattre le cancer. C'est la question qui est soulevée par une équipe de chercheurs à l'Université de Chicago, dont les récents travaux qui ont été publiés dans la revue Cell Reports Medicine ouvrent une piste totalement inattendue. Il y a un composé naturel présent depuis toujours dans notre alimentation qui s'est révélé capable de renforcer l'action des cellules immunitaires chargées d'éliminer les tumeurs. Et donc, après avoir analysé de nombreux nutriments présents dans le sang, les chercheurs ont remarqué que la zéaxanthine, c'est un caroténoïde d'origine végétale, eh bien, cette zéaxanthine avait un effet direct sur les cellules tueuses du système immunitaire, qui sont appelées les lymphocytes C, les lymphocytes T, pardon. Ces cellules agissent comme des soldats chargés de traquer et d'éliminer les cellules cancéreuses. Alors, le rôle de la zéaxanthine, est-ce que ça serait apparemment de renforcer le radar naturel appelé récepteur T qui permet à ces lymphocytes T de reconnaître les cellules malades? Grâce à ce coup de pouce, eh bien, ces lymphocytes deviennent plus actifs, ils envoient davantage de signaux de défense et ils améliorent leur capacité à attaquer les tumeurs. L'étude a été testée sur des modèles animaux avec un constat frappant. Les tumeurs progressent plus lentement chez les sujets ayant reçu de la zéaxanthine dans leur alimentation. Mais la surprise est venue lorsque les chercheurs l'ont associée à une immunothérapie par inhibiteur de point de contrôle. C'est une approche totalement révolutionnaire dans le traitement du cancer. Et ensemble, les deux traitements ont montré un effet renforcé, comme si ce nutriment donc naturel agissait en amplificateur des effets de l'immunothérapie. Donc des expériences menées sur des cellules T humaines ont confirmé le phénomène, c'est-à-dire qu'en présence du composé, eh bien, elles se sont montrées plus efficaces pour détruire des cellules issues de cancers particulièrement résistants, comme par exemple le mélanome, le myélome multiple ou le glioblastome. L'autre atout de la zéaxanthine, eh bien, elle est déjà commercialisée sous forme de complément alimentaire, principalement pour protéger la santé au niveau des yeux. C'est peu coûteux, c'est bien toléré, hein, ce caroténoïde, et pourra bénéficier d'un profil de sécurité connu. Alors, l'idée, c'est que ça va faciliter son éventuelle intégration dans les protocoles thérapeutiques. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous en consommez probablement déjà sans le savoir, hein, parce que la zéaxanthine est naturellement présente dans de nombreux aliments du quotidien, notamment les fruits jaune-orangés et les légumes à feuilles vertes. Donc il y a le chou frisé, les épinards, le maïs, l'orange, l'abricot ou encore la mangue. En clair, un simple repas coloré peut contribuer à nourrir vos défenses immunitaire. Alors, les résultats ouvrent un nouveau champ d'immunologie nutritionnelle qui étudie comment des composants alimentaires spécifiques interagissent avec le système immunitaire au niveau moléculaire. C'est ce qu'a déclaré le docteur Jing Shen, qui est l'auteur principal de l'étude. Grâce à des recherches plus poussées, dit-il, nous pourrions découvrir des composés naturels qui rendraient les traitements anticancéreux actuels plus efficaces et plus accessibles. Alors, les résultats sont encourageants, ok, mais les chercheurs rappellent qu'ils sont encore dans une phase de recherche préliminaire menée surtout en laboratoire sur des modèles animaux. Donc là, on est encore au tout début, c'est comme tout à l'heure. Nous sommes vraiment au tout début d'une piste de recherche assez intéressante. Il faudra passer par des essais cliniques sur l'homme qui seront indispensables avant donc de savoir si la zéaxanthine peut réellement améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer. Et donc voilà, ce composé des fruits et légumes que nous consommons tous montre un effet surprenant sur les cellules cancéreuses. C'est quand même assez intéressant, bien évidemment, parce que là, on est sur une piste assez prometteuse. Donc, le chemin est encore long, mais on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va peut-être arrêter là, parce que j'ai un peu l'impression que les prochains articles vont être un petit peu trop longs. Donc, voilà, ce sera une émission un petit peu plus courte cette semaine, mais c'est pas grave. On se retrouvera bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Alors, tous les samedis entre 12h et 13h, vous avez cette émission et elle est rediffusée également tous les mardis matins à 10h. Donc, vous avez la possibilité, si vous avez loupé le samedi, de nous réentendre le mardi matin. Et puis, alors, si vous n'avez pas pu nous écouter ni le samedi ni le mardi, eh bien vous pouvez de toute façon vous pouvez nous écouter sur le site internet graphite.net. Vous avez la possibilité de récupérer tous les podcasts de toutes les émissions de Graphite. Donc ça vous permet voilà, de pouvoir nous écouter dans des moments un petit peu plus vous avez le temps, la sérénité de pouvoir nous écouter. C'est tout l'intérêt. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et de passer une très bonne semaine à l'écoute de nos programmes. Et on se retrouve donc samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. À bientôt, merci, au revoir.